point de départ, je parle du Val-Fouré, qu'il faut rappeler quand même, qui est la plus ancienne cité de France et la plus grande cité d'Europe. Donc vraiment, c'était déjà un grand... Moi, j'ai l'impression et j'ai la certitude qu'on avait été déjà utilisé comme une sorte de laboratoire. Parce que les termes, quand j'ai fait ma petite enquête, déjà, j'entendais le laboratoire de l'innovation urbaine. Les gens 58. Puis dans les années 80, c'était le fameux territoire d'expérimentation. Avec ces deux termes-là, laboratoire et expérimentation, entre les deux, bon, nous, alors, on est des cobayes.
Comment vous l'avez voulu, vous, ce documentaire ?
Moi, comment je l'ai voulu ? Je l'ai voulu très, très sensible, très humain, très, très poétique. Et surtout, moi, ce que je voulais sortir de ce documentaire, c'est redonner de la fierté, de la dignité, des repères aux gens. Et puis, surtout, la parole, quoi.
Alors, vous vous emparez d'images, d'archives. Hein, on vient d'en entendre un petit extrait à l'instant. Mais surtout, effectivement, des mots, puisque vous jouez sur le détournement du langage et de la signalétique de cette banlieue pour raconter votre Val-Fouré. Pourquoi ?
Tout à fait. Parce que moi, j'ai voulu être prudent, surtout, parce qu'il y a eu tellement de documentaires sur les cités. On a eu. Et enfin, finalement, ça, jusqu'à nous caricaturer. Donc, c'est bon, il y a eu quelques exceptions de documentaires qui vraiment nous ramenaient vers le haut, mais les 95% c'était des documentaires franchement caricaturaux, donc qui nous tiraient vers le bas, qui nous rendaient les plus inquiétants pour le reste de la société française, alors qu'on avait le plus d'inquiétudes nous au quotidien. Et donc moi, j'ai voulu faire un reportage à la fois en gardant ma rage légitime, mais la rage avec toujours cet esprit pédagogique et ludique. C'est pour ça que je me suis dit, comment faire je me suis dit, comme moi, je pense que notre situation, elle a été vraiment pensée. Donc, pour répondre à cette pensée, il faut que, je réfléchisse bien. Donc, je me suis dit, j'ai commencé à regarder les panneaux, les panneaux de rue. Vous savez, nos panneaux de rue sont magnifiques, hein, c'est des grandes lumières. Nous, on est par thème. Le Val-Fouré, c'est par thème. Quartier des aviateurs, le quartier des peintres, le quartier des physiciens, le quartier des écrivains, etc. Moi, je sors du quartier des écrivains. Donc, c'est un signe, il n'y a pas de hasard. Donc, j'ai grandi à Descartes. Et au début, quand j'étais petit, je pensais que c'était Descartes à jouer. Je pensais pas que c'était René, son prénom, que c'était un philosophe. C'est après. Quand j'ai compris avec mon expérience, je me suis dit, Descartes, c'est un grand philosophe. Alors comme ça, je regardais Descartes et je commençais à dire, c'est la philo-architecture du carré pensée à mieux nous faire tourner en rond. J'ai commencé à délirer comme ça. La rue Racine est devenue la rue, je savais que ça plaît Jean. Donc j'ai commencé à écrire Jean, Jeunesse, nous. Les gens Racine, conséquences du dégât tarifaire pour les masses vulnérables, tributaires des dortoirs, le silence est d'or. Donc c'était un dialogue qui a commencé à me donner des textes et qui répondaient au fur et à mesure. Je me suis dit, il y a quelque chose là.
Donc détournement poétique qui
voilà, la rue Molière. La rue Molière, c'est devenu la rue des gens malades malgré eux. Donc j'allais voir les jeunes, je leur expliquais ça. Je dis, c'est pas la peine de s'énerver maintenant pour parler de notre état. Il suffit de regarder nos panneaux qui nous entourent, notre environnement, parce que je me suis rendu compte que notre environnement te raconte toute ton histoire.
Et comme vous l'avez voulu, effectivement, pédagogique, ce documentaire, vous l'avez intitulé « Les héritiers du silence ».
Oui. Voilà, parce qu'on veut vraiment briser ce silence.
C'est quoi le silence ?
C'est le silence, et le silence, il va loin. Il y a le silence. Moi, j'ai vu mon quartier se transformer jusqu'à devenir une cité dortoir. Donc le silence d'une cité dortoir, je vous assure que c'est un grand bruit, hein. Ça fait très mal. Donc, et puis je me suis rendu compte, pour comprendre ce silence-là de la cité dortoir, il faut aller plus loin. Et je me suis rendu compte que le silence, il est déjà là quand nos parents y sont venus. Il est déjà là quand nos grands-parents étaient là. Donc on est même dans les dortoirs de l'histoire, le silence. Donc voilà, depuis l'appel du général de Gaulle... jusqu'à maintenant, bientôt on va fêter ses 70 ans là.
Son appel. Justement, on a quelque chose pour vous. En tout cas, vous, le fils d'un silence imposé, d'une parole retrouvée, vous avez tout, Saïd Baïdj, pour faire un joli portrait en sol majeur.
Si par un effort magistral, les voies de communication ont été restaurées, il nous faut encore reconstruire nos maisons et refaire l'outillage national. Il s'agit d'équiper notre système de production, de remettre nos ports en état et en activité.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
de restaurer nos usines et nos mines et d'accroître le rendement de notre agriculture. C'est à la poursuite de ces travaux que sont affectés les fonds provenant du prélèvement exceptionnel comme de l'emprunt qui permet de s'en libérer.
Alors, est-ce que la venue de votre père, Saïd Baïdje, en France, est liée à un certain appel du général de Gaulle?
Oui, je dirais même le rappel du général de Gaulle, parce que le premier appel, il a été fait pour nos grands-pères, bonne pioche, quoi. Donc, ils se sont dit, bon, on va garder la main, hein, la nouvelle filière aurifère, pour la croissance, maintenant reconstruire la France, la croissance industrielle, et bah, effectivement, ça a été nos pères. Donc, comme j'ai dit, mon père, il est venu, il est arrivé dans le Nord, c'est là où je suis né, juste né. Donc, je dis ça, bon, voilà, c'est en fin de compte, c'est le parcours de mon documentaire. Donc mon père est arrivé dans le nord de la France, hein, c'est des villages entiers berbères ou du Sénégal qu'on a déplacés pour reconstruire le pays après la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai dit au nord chez Ramine et à l'ouest combattant de la chaîne. Mm. Ouais, parce que moi quand même j'ai eu ma génération, bon je suis une génération témoin, moi j'ai quand même connu la mixité sociale au Val-Fouré. Ça c'est incroyable, je l'ai connu de la maternelle jusqu'à la primaire. Et donc c'était une bande de copains, vraiment on était toujours en bande et on avait un fameux terrain vague là en face de la maison, un petit périmètre de verdure, peut-être qu'ils avaient oublié, d'ailleurs c'est vrai qu'ils l'ont oublié parce que quelques temps après ils nous ont construit un bloc, la CAF, la caisse d'allocation familiale, ils nous ont bouché l'horizon, mais ce fameux terrain vague là vraiment on y a cultivé tous nos souvenirs d'enfance, on dit. C'était le terrain vague de toutes mes visions, de toutes mes saisons, jusqu'au moment où des grues de mauvaise augure sont apparues un bon matin. Mais c'est vrai que ce terrain-là, on était toujours en bande, il y avait l'allée des marronniers. Alors l'automne, c'était la guerre, on se faisait des boucliers avec les marrons, c'était deux équipes. Là, on a l'hiver, quand il y avait encore les saisons, la neige et tout, c'était des batailles de neige.
Ils ont enlevé les saisons aussi. Hein,
les saisons, ils ont disparu, comme les abeilles, là, c'est une réalité.